Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je vous accompagne ce soir avec mon émission Zone de Contact. Ravi de retrouver les auditeurs et les auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le continent africain a connu ces derniers temps de grandes évolutions géopolitiques. Le président de l'ONG Urgence Panafricaniste fera le point sur ces récents changements dans un entretien exclusif. Vladimir Poutine a fait face à la population et aux journalistes russes pendant une longue séance de questions-réponses. Un géopolitologue malien analysera les déclarations du président russe. L'année 2023 qui arrive à son terme a vu de nombreux changements se dérouler dans le monde, mais aussi sur le continent africain. Tout d'abord au Niger avec l'arrivée au pouvoir de militaires en juillet dernier. Dans la région, les cartes se sont redistribuées avec l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe en son sein le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et cette alliance évoluera à l'avenir vers une alliance économique, comme l'a annoncé le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La montée en puissance des BRICS qui va accueillir de nouveaux membres est également à noter. Et la Russie, qui assurera prochainement la présidence tournante du groupe, œuvrera à mettre en place un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable, comme l'a déclaré Vladimir Poutine le 14 décembre dernier lors de son annuelle conférence de presse. Pour revenir sur ces sujets actuels brûlants, Kémi Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, a accordé à Spoutnik Afrique un entretien exclusif. Aujourd'hui avec moi, je reçois Kémi Séba, figure de proue du mouvement panafricaniste et président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Kémi Séba, bonjour.
Bonjour à vous.
On va démarrer avec une actualité qui touche votre ONG. C'est le coordonnateur qui s'appelle Ungnibo Chadrak qui a été arrêté le 5 décembre dernier au Bénin avant d'être placé sous mandat de dépôt le 8 décembre. Quelle est votre réaction suite à cette arrestation ?
Déjà, je vous remercie pour cette question. On va être très simple, c'est une déclaration de guerre du système néocolonial français. Je distingue d'ailleurs le système néocolonial de la France de manière générale. Il y a une oligarchie qui dirige la France aujourd'hui, une oligarchie apatride, qui travaille en concubinage incestueux avec une oligarchie corrompue africaine. Cette oligarchie corrompue africaine est matérialisée, caractérisée par aujourd'hui quelqu'un comme Patrice Talon, le président du Bénin, qui est une sorte de négrier contemporain, qui asphyxie sa population, qui est un tueur social, qui paupérise le peuple alors qu'il n'a jamais été aussi riche. Je prends un exemple, hein, c'est comme s'il y a 10 bananes dans un endroit ou 10 fruits dans un endroit, vous prenez 9 fruits et vous laissez toute la population se partager le 10e fruit et vous dites que vous êtes riche et que les autres sont pauvres. Non, c'est vous qui êtes un voleur, un pilleur et c'est les autres qui sont appauvris. Patrice Talon, en arrêtant le coordinateur national de notre ONG, Urgence Panafricaniste, déclare la guerre au mouvement panafricain de manière générale et conforte son statut aujourd'hui de serviteur numéro 1 du système néocolonial sur le continent africain. Il est Alassane Draman Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, ou des gens comme Macky Sall, président du Sénégal, ont été pendant longtemps les figures de proue de la soumission aux intérêts de l'oligarchie française, de l'oligarchie occidentale. Mais Patrice Talon est aujourd'hui en train de faire une percée dans le cadre de la soumission, dans le cadre de la prostitution politique. C'est une prise d'otage. Sa stratégie en arrêtant le coordinateur national de notre ONG au Bénin, le petit frère Chadrak, c'est d'essayer de terroriser tous les partisans que nous avons en Afrique en disant si vous suivez Kémi Séba et au Bénin, si vous suivez Kémi Séba, vous serez arrêté. Lui a peut-être aujourd'hui une autorité et une influence qui lui permet d'être libéré rapidement, mais vous n'aurez pas ces facilités-là. Je dis et je répète à Patrice Talon que cette déclaration de guerre qu'il a fait, si le frère Chadrak n'est pas libéré, l'année 2024 va être une année très longue. Et ce qui s'est passé dans les autres pays, il faut demander à Rochmar Kabore qui m'a fait arrêter, qui a fait cette erreur. Il faut demander à Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président du Mali, qui a fait cette erreur. Il est mort depuis. C'est pas ce que je souhaite à qui que ce soit, mais qui est mort depuis. Il faut demander à Mohamed Bazoum, qui a tout fait pour nous persécuter lorsque nous étions au Niger, d'accord, et lorsque nous militions contre la France-Afrique au Niger, quel a été le sort de ceux qui se sont soumis à la France? Ce que Patrice Talon fait, il a beau être le propriétaire et prostituer le Bénin aux yeux de tout le monde, le Bénin qui est la terre d'un géant comme Béhanzin, qui est la terre des Agodjé, je le dis et je le répète, il le regrettera. On a beaucoup de partisans dans bon nombre de secteurs de la société, d'accord? Que ce soit dans la société civile, que ce soit au sein des élites, que ce soit au sein du prolétariat, que ce soit même au sein des corps constitués, que Patrice Talon ne fasse pas l'erreur de penser que les Béninois seront éternellement ses esclaves. Nous savons que le colon a quitté le territoire, mais a laissé des suppôts noirs. C'est ce que Frantz Fanon disait. Il disait que le néocolonialisme, ça serait le départ physique des colons blancs et ça serait le remplacement de ces colons blancs, la collaboration de ces colons blancs avec les colons noirs. Je dis et je répète, Talon, en faisant cette prise d'otage, a déclaré une guerre au mouvement panafricaniste. Et si notre frère n'est pas libéré, je crains qu'il le regrettera très profondément.
Concrètement, qu'est-ce qui lui est reproché et est-ce que vous avez pu avoir de ses nouvelles ?
On a de ses nouvelles régulièrement, évidemment. On a d'ailleurs, à ce sujet, engagé un certain nombre d'avocats. On a déployé les gros moyens pour cette situation, d'accord ? On a fait venir l'avocat Juan Branco, on a fait venir aussi, donc on a engagé deux avocats béninois qui sont des avocats brillants, d'accord, un avocat communiste du Parti communiste et un avocat qui est un avocat traditionnel qui s'occupe de ces questions pénales. Il lui est reproché soi-disant incitation à la haine raciale, parce qu'aujourd'hui quand vous dénoncez le néocolonialisme, Patrice Talon est tellement une serpillière du néocolonialisme aujourd'hui, une serpillière politique, que si vous dénoncez ses maîtres, il considère que c'est un appel à la xénophobie. Ce qui est une ineptie quand on sait que notre organisation, l'Urgence panafricaniste, est très proche des Gilets jaunes, qui est la synthèse du prolétariat français. Nous avons mené un certain nombre d'actions contre Bolloré, d'ailleurs, avec Urgence panafricaniste et avec les Gilets jaunes, contre Bolloré, afin de montrer que le prolétariat africain, le prolétariat français, il y a une convergence d'intérêts, une convergence de lutte contre des adversaires communs. Parce que ceux qui pillent les ressources en Afrique sont ceux qui asphyxient le prolétariat français de manière générale. Donc, présenter notre petit frère Chadrak comme quelqu'un qui appelle à la xénophobie, à l'incitation à la haine raciale, c'est une ineptie. On l'appelle aussi, on le considère aussi, on l'accuse aussi d'inciter à la violence, parce que il dénonce la présence de l'armée militaire française, des groupes français militaires sur le terrain béninois. Alors, c'est intéressant de noter que quand il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a refusé que l'armée américaine reste sur le territoire français, en expliquant que une nation souveraine n'a pas à avoir une armée qui vient occuper son espace. Ça me paraît extrêmement logique. Pourquoi ce qui est logique pour le gouvernement français ne le serait pas pour les autorités africaines ? Nous demandons à ce que l'armée française parte, et nous demandons, puisqu'en plus l'armée française est sous commandement américain aujourd'hui, on le sait, d'une façon ou d'une autre, et nous demandons à ce que notre peuple puisse décider de manière souveraine avec qui il veut collaborer et non pas collaborer avec une entité qui s'est caractérisée par la déstabilisation de la Libye et du Sahel à travers l'assassinat de Kadhafi. Mais comme on a des présidents débiles et on a des présidents intellectuellement soumis et complexés comme Patrice Talon, il faut bien connaître l'histoire de cet individu, qui est la synthèse du complexe et de la soumission aux intérêts extérieurs, tant qu'il trouve son intérêt financier. C'est la démarche et la caractérisation même de la corruption. On a un président qui est complexé, donc pour lui, quand on attaque ses maîtres, c'est comme si on appelle à la haine raciale. Il faut qu'il sache que ça aussi, c'est quelque chose qui sera corrigé. Et je le dis, que s'il y a des gens aussi puissants Kibeka, des gens aussi puissants que Compaoré avant, des gens aussi puissants, très important qu'on le dise quand même, que Alpha Condé en Guinée et autres qui ont été balayés à un certain moment, et des gens comme Bazoum qui avaient cadenassé le pays, qui ont été balayés, ce n'est pas Patrice Talon qui va passer entre les mailles du filet. Ce que je dis, ce n'est pas un appel à la violence, mais c'est un appel à l'intelligence. Il y a différentes façons de voir un régime de soumission tomber. Ça peut être par diverses voies, ça peut être par des voies électorales, ça peut être par des voies de la société civile, ça peut être par des voies diverses et variées, mais le résultat est clair et net. Patrice Talon, s'il continue à se soumettre au gouvernement français, je vous le dis et je vous le répète, comme je l'ai dit à tous ceux qui sont tombés auparavant, il tombera. Que les choses soient très claires à ce sujet.
Cette arrestation fait justement écho, vous en avez parlé d'ailleurs, à celle que vous avez subie le 16 septembre dernier à l'aéroport de Cotonou. Et qui cherche à faire tomber votre ONG et pourquoi ?
Qu'on soit très clair, Patrice Talon cherche à faire tomber notre ONG parce qu'il s'inquiète profondément de la montée en puissance en termes d'audience de notre organisation, que ce soit au Bénin et plus globalement in extenso en Afrique francophone et dans le monde noir francophone, si on veut être plus global. Et il s'inquiète aussi du fait que notre génération commence de plus en plus à regarder vers le terrain institutionnel. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce pays soit pris en otage continuellement par une minorité qui vit dans l'opulence la plus crasse, pendant que la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et évidemment, derrière lui, il y a l'oligarchie française, ou l'élite financière apatride, qui prend en otage la France, qui a tout intérêt à ce que notre pays, encore une fois, agissent en étant à genoux par rapport aux intérêts exogènes. C'est une réalité. Donc, ils font tout pour nous arrêter. Qu'ils n'oublient pas que nous avons de nombreux partenaires. Nous sommes ici à Moscou, nous sommes à différents endroits dans le monde. Nous avons des partenaires en Iran, à Moscou, en Amérique du Sud, en Asie, à différents endroits dans le monde. Et je le dis et je le répète, si Talon pense que parce qu'il marche avec le gouvernement français, il est invincible, il faut qu'il sache que la France de Macron n'est pas la première puissance du monde et qu'il y a des entités qui sont en train, dans ce cadre du monde multipolaire, de se réunir pour faire en sorte que l'hégémonie occidentale puisse cesser, véritablement. Et quand je dis hégémonie occidentale, je nuance même mon propos parce que le prolétariat occidental n'est même pas concerné par cette réalité, mais l'élite financière apatride, elle, plus que jamais l'est.
Pour autant que je sache, récemment, vous avez pris l'avion pour Moscou depuis l'Iran, qui est un pays, pour rappel, qui rejoindra les BRICS très prochainement. Et selon vous, quel rôle jouera ce pays dans le monde multipolaire émergent ?
Je pense que l'Iran va être, de par son historique, de par la structuration de son système révolutionnaire, étatique et de sa dimension idéologique et politique, sera un grand pilier, plus que bon nombre d'autres pays, dans les BRICS. Je pense que l'Iran, quand on étudie un petit peu la doctrine de Roménie, bon, je ne suis pas de sa confession religieuse, je ne suis pas dans son optique spirituelle en tant que telle, mais j'analyse sa capacité à faire converger à la fois la logique métaphysique avec la dimension matérielle. Il a été capable, à partir d'une dimension spirituelle, d'adosser ça à une réalité révolutionnaire sur le terrain politique et faire en sorte de transformer l'État, de décoloniser les esprits, de décoloniser les espaces et d'appliquer ses propres règles qui peuvent être critiquées par l'extérieur. Les règles qu'il y a en Iran, si moi demain je suis président, c'est pas forcément ces règles-là que moi je vais prôner, qu'on soit très clair. Mais je pense que l'Iran, dans la dimension de la résistance à l'Occident, est un des pays qui a peut-être le plus de leçons à enseigner au reste de l'humanité. On dit beaucoup de choses sur la manière dont les femmes sont soi-disant persécutées en Iran. J'ai rarement vu des pays dans le monde, y compris en Occident, où les femmes sont autant présentes dans les cadres scientifiques, d'accord ? Énormément de femmes dans les universités, dans les études scientifiques. Les femmes sont surdiplômées en Iran. Il y a quelque chose qu'on trouve dans très peu de pays, y compris en Occident. Et il faut faire attention à la diabolisation orchestrée par les médias occidentaux dès lors qu'un pays ne rentre pas dans les jupons de l'autorité coloniale.
On a Vladimir Poutine qui a tenu sa fameuse conférence de presse annuelle. Et lors de cet événement, il a déclaré que la Russie, lorsqu'elle assurera la présidence tournante des BRICS, œuvrera à mettre en place un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable. Et selon vous, quelle sera la place de l'Afrique dans cette future configuration géopolitique mondiale ?
Moi, je pense que l'Afrique sera un centre de gravité. Elle l'est déjà en réalité depuis un certain nombre d'années, sauf que le territoire africain est un centre de gravité dans cet équilibre géopolitique mondial. Mais les Africains eux-mêmes n'étaient pas dans ce centre de gravité-là, puisqu'ils étaient absents des débats et des décisions. Là où, avec le retour de la souveraineté dans nos pays, et il y a les États de l'Alliance du Sahel, plus que jamais, qui sont présents, Mali, Burkina, Niger, et qui seront d'ici quelques temps rejoints par le Bénin, nous y travaillons sérieusement, il est évident qu'il y a une nouvelle donne, une nouvelle direction. L'Afrique du Sud est aussi dans ce cadre-là, l'Éthiopie est aussi dans ce cadre-là. La souveraineté est un bien précieux. Nos ressources ont servi l'humanité dans sa globalité, et l'Occident en priorité, mais va arriver un moment donné où ces ressources vont servir l'Afrique en priorité, et l'Afrique va pouvoir donner sa voix au concert des nations et permettre un équilibre. Comme le dit souvent mon camarade et ami, le professeur Alexandre Douguine, chaque pôle civilisationnel a besoin d'apporter une plus-value dans ce concert des nations. Il ne peut plus avoir un seul secteur de l'humanité qui décide pour le reste de l'humanité. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Ça ne peut pas être les États-Unis et leurs sous-fifres européens qui décident pour le reste du monde. Il faut que chaque peuple puisse décider de sa propre destinée et puisse apporter une plus-value dans ce concert des nations en tant que tel et faire en sorte que l'égalité et la dignité puissent être une réalité. Donc je pense que les BRICS vont devenir le nouveau centre de gravité du pouvoir, vont effacer même des pseudo-Nations Unies qui sont en réalité rien d'autre que les oligarchies occidentales unies et vont effacer aussi des structures comme l'OTAN et qu'au fur et à mesure, bon nombre de pays vont rejoindre les BRICS, je le pense profondément. Des pays qui vont réussir à acquérir leur souveraineté. Et je pense que c'est sur ce terrain-là plus que jamais qu'il faut avancer.
Vladimir Poutine a parlé de l'ordre mondial existant qui est établi comme on le sait, par l'Occident, est fondée non pas sur le droit, mais sur des règles changeantes. Et il a assuré que la Russie et d'autres pays qui défendent leur souveraineté et le respect du droit changeront et sont déjà en train de changer la situation. Comment pourra-t-on parvenir à ce résultat, selon vous ?
Moi, je pense qu'on est déjà en train de parvenir à ce résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une aussi grande chute d'influence de l'Occident aux quatre coins du monde. Nous, on voyage partout dans le monde pour nos activités politiques via notre organisation, l'Agence panafricaniste. On constate qu'un peu partout où nous allons dans le monde, aujourd'hui, l'Occident ne fait plus la pluie et le beau temps. Les gens sont dans le retour à la tradition. Et hier, on était dans une bipolarisation géopolitique entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. On a changé de configuration. Aujourd'hui, avec la victoire dans les années 90 du capitalisme qui a abattu le communisme, deux idéologies matérialistes, précisons-le, on est arrivé à l'ultime victoire et à l'ultime forme dégénérescente d'ailleurs du capitalisme qui est le néolibéralisme, à la fois économique et sociétal, que certains vont appeler le globalisme néolibéral en tant que tel. Et le globalisme néolibéral sur le terrain économique est devenu une sorte de religion malheureusement pour tout le monde. Tout le monde fait face à ces réalités-là, même ne serait-ce que partiellement, bon nombre de nations. Mais le globalisme néolibéral sur le terrain sociétal est devenu, quelque part, certains parlent de l'American way of life. On est dans cette situation et ça a poussé les peuples à rentrer dans une sorte d'uniformisation. Mais il y a des résistances. Et c'est à travers ces résistances-là qu'un certain nombre de peuples ont commencé à se dire non, mais votre histoire de d'uniformisation du monde, votre histoire de wokisme, mot à la mode qui veut tout et rien dire à la fois, mais cette histoire de destruction des noyaux principaux de l'identité collective, comme la famille, comme la spiritualité, comme la tradition, comme les valeurs et tout ce qui s'ensuit, comme l'amour entre un homme et une femme, etc., c'est quelque chose qui est devenu, a été perçu comme étant agressif par la plupart des peuples dans l'humanité. Que vous allez en Asie, que vous allez en Afrique, que vous allez au Moyen-Orient, que vous allez en Amérique du Sud, les gens n'ont pas la perception que l'Occident a. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Occident a tendance, l'oligarchie d'Occident, parce que même le prolétariat occidental n'est bien souvent pas d'accord avec ces réalités-là, mais l'oligarchie d'Occident a tendance à croire que être civilisé, c'est accepter les dégénérescences que eux prônent. Et ceux qui sont barbares, pour eux, ce sont ceux qui s'attachent à la tradition. Mais qui dit tradition, dit être relié au commencement. Le commencement, c'est pour les peuples qui sont dans une dynamique de spiritualité, la logique de la perfection, parce que le commencement, c'est la création, c'est au moment où les entités étaient les plus proches du Créateur, qu'on l'appelle, que certains l'appellent Dieu, que certains l'appellent Yahvé, que certains l'appellent le Seigneur, que certains l'appellent le Christ, l'Esprit Saint, que d'autres l'appellent Allah, que d'autres l'appellent Atona, Atumra, Maou, peu importe le nom qu'on lui donne, cette réalité est la même. Et donc, je pense qu'il est très important que les gens comprennent que les trois quarts du monde ont décidé d'avoir une vision qui est enracinée dans leur perception à eux du monde. Un bouquet de fleurs n'est beau que dans sa diversité. Voilà. Et ceux qui veulent uniformiser ces fleurs et faire en sorte qu'elles perdent leur spécificité, ils doivent savoir qu'il y a une grande partie de l'humanité, la majorité de l'humanité, qui ne sera pas d'accord avec cette réalité.
Vladimir Poutine a également parlé de l'utilisation de la monnaie nationale. Selon lui, c'est mieux pour nous, pour la Russie. Et cela accroît la souveraineté de la Russie et ses capacités. Et qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Et quelle est la solution, à votre avis, pour que les pays africains gagnent leur souveraineté économique ?
Moi, je pense que la réalité de la Russie n'est pas forcément sur ce terrain-là adaptable à tous les espaces africains de manière générale, même si, spécifiant les choses, il est évident que la dédollarisation du monde est une vertu pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie hégémonique qui asphyxie le reste de l'humanité. Ça, c'est pas possible. Surtout quand on sait que même l'euro dont on parle est en réalité lui-même, qu'on le veuille ou pas, relié d'une certaine façon au dollar, dans une certaine mesure, puisque le dollar est la monnaie hégémonique. Et le problème dans nos États, je parlais de ce qui nous concerne en priorité, les pays d'Afrique, entre guillemets, de la zone franc, sont quelque part soumis ou adossés à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, via le système du franc CFA. Cela anéantit tout processus de compétitivité. La balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Donc on a besoin d'avoir un nouveau système monétaire qui s'appuie sur un taux de change flexible, arrimé à un panier à devises premièrement, et surtout de refonder le système économique qui s'adosse et qui se crée, qui s'appuie sur nos ressources minières en tant que telles. Kadhafi, quand il voulait créer le dinar or, avait tout compris. Une ressource puissante, créer une monnaie qui s'appuie sur cette réalité, et c'est dans une dimension traditionnelle en réalité. À l'époque, comment faisait, il y a des centaines et des centaines d'années, pour certains peuples des milliers d'années, ils échangeaient en fonction des ressources qu'ils avaient. Certains vont parler de troc en tant que tel. Vous vouliez quelque chose, c'était en échange d'une certaine dans le cadre d'une certaine transaction, certaines personnes ça allait être des tonnes d'or, d'autres allaient échanger ça contre des tonnes d'ivoire ou des choses de ce style-là, et ces échanges se faisaient dans ce cadre-là. Et je pense que progressivement, qu'on le veuille ou pas, c'est le cadre même de la logique de la révolution. Quand on dit révolution, révolutio, étymologiquement, c'est le retour au commencement, le retour sacré au commencement. On va revenir à une démarche où les gens vont échanger sainement et vont mettre de côté le lobby bancaire international qui s'est greffé dans les interactions humaines en faisant croire à la majorité de l'humanité que tout le monde avait besoin de cette banque, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin d'eux. Cette banque s'enrichit sur notre dos. C'est quelque chose qui ne peut plus durer.
Et selon vous, est-ce que le monde a besoin d'une alternative au dollar et à un système qui est remplacé par cette même monnaie aujourd'hui?
Je pense qu'il faut bien comprendre qu'un monde ne peut pas, réussir complètement à éteindre le dollar s'il n'y a pas un respect d'un des critères de convergence qui sont appliqués dans un certain nombre de pays, et de deux, on doit tenir compte des contextes locaux, des contextes économiques locaux. La réalité des pays africains n'est pas la même que la réalité de la Russie, n'est pas la même que la réalité des pays d'Asie, que les pays du Moyen-Orient, etc. Donc je pense qu'il faut véritablement voir les choses au cas par cas, au risque de partir d'un système global pour aller vers un autre système global. Je pense qu'il faut véritablement qu'on étudie ces relations-là, ces situations-là, et qu'on tienne compte de l'intérêt majoritaire des peuples. C'est ce que nos dirigeants africains n'ont pas la capacité de faire, mais c'est ce que nous autres, la nouvelle génération et leader de la société civile, a. Et c'est pour ça que cette génération-là devra, elle aussi, et on est dans ce cadre-là, tôt ou tard, prendre ses responsabilités institutionnelles. On est de toute façon de manière irréversible vers cette voie.
Vladimir Poutine a également parlé du conflit israélo-palestinien, qui connaît, comme vous le savez, une nouvelle escalade à Gaza depuis plus de 2 mois. Et évidemment, ce conflit est très lourd en pertes civiles, il faut le rappeler. Les médias occidentaux, dans leur couverture de ce conflit, eux ne condamnent pas l'offensive israélienne sur Gaza, alors que dans le même temps, on l'a tous vu, ils n'hésitent pas a condamné de manière très véhémente, la Russie pour son opération spéciale en Ukraine. Et comment expliquez-vous ce deux poids deux mesures ?
Je pense que on est dans une logique stricte de l'oligarchie occidentale. Comme le disait, je pense, le président de Russie, comme le disait avant lui l'ayatollah Khomeini et l'ayatollah Khamenei, et comme le disait avant lui des gens comme Kwame Nkrumah ou Patrice Lumumba, et plus récemment par la suite des gens comme Thomas Sankara, on est dans un monde où les relations internationales sont dictées par les intérêts de l'Occident. Et l'Occident agit en fonction de ses principes, de ses intérêts, et la réalité d'un jour ne peut pas être la réalité d'un autre jour si ça ne permet pas à l'Occident de gagner quelque chose sur la table. Donc, il y a une très grande cohérence en réalité. Pourquoi l'Occident soutient l'Ukraine ? Parce qu'à la tête de l'Ukraine, il y a un pion de l'oligarchie financière apatride qui a pris en otage l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont des pays frères. À la base, on parlait de la Russie de Kiev, si je ne m'abuse.
Donc, tout à fait.
Donc c'était une même entité, mais quels sont ceux qui ont toujours eu cette aptitude à diviser les peuples et les États ? On les connaît. Et ceux qui ont eu cette aptitude-là sont ceux qui ont placé à la tête de l'Ukraine un guignol qui était humoriste il y a quelques temps encore, millionnaire, et qui a été placé là en le présentant désormais comme chef de guerre et qui est en train de mener une guerre fratricide contre la Russie. C'est un outil de l'OTAN, un agent de l'OTAN. Maintenant, de l'autre côté, l'Occident soutient Israël parce que, voilà, Israël, on sait très bien que ceux qui sont à la tête d'Israël et un certain nombre de lobbies qui sont à la tête d'un certain nombre de nations occidentales, il y a une convergence d'intérêts, pour ne pas dire une convergence de vision, une conversion de vie, et peut-être une convergence sur le terrain culturel aussi. Donc, observez même ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Il y a une montée en puissance de ce qu'on appelle le nationalisme. Certains vont dire pro-israélien. Nationalisme occidental pro-israélien. Certains vont parler national-sionisme, peu importe le terme qu'on donne. Mais et on vous parle de civilisation judéo-chrétienne. Moi, je suis un grand féru d'histoire. Pendant de très nombreuses années, on parlait de la civilisation chrétienne. L'appellation civilisation judéo-chrétienne, c'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui va dans le sens de la volonté du choc des civilisations. Quelqu'un que je combats profondément, mais que je lis beaucoup, Samuel Huntington, quand il parlait du choc des civilisations, il le parlait dans un principe bien précis, et on est dans une réalité aujourd'hui qui va dans ce cadre. C'est l'oligarchie financière apatride qui prend en otage l'Occident, qui elle-même lutte aujourd'hui contre tout ce qui n'est pas occidental. C'est ça la réalité. d'identité. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, l'Ukraine et Israël, ou l'oligarchie ukrainienne et Israël et l'oligarchie israélienne ont une convergence d'intérêts avec l'élite qui a pris en otage l'Union européenne et les États-Unis.
Par rapport à ce conflit, je voudrais vous demander, parce que la position africaine sur ce conflit, elle est assez variée. On a par exemple l'Afrique du Sud qui a eu le courage de prendre une décision forte en suspendant notamment ses relations diplomatiques avec Israël. On a aussi pas mal de pays africains qui restent silencieux sur la question. Et est-ce qu'il existe une position africaine unifié concernant...
Clairement, très clairement, très bonne question. Très clairement, il n'y en a pas, puisque chacun joue en fonction de la main de ceux dans laquelle il mange. C'est normal, d'accord ? Et on est dans une situation aujourd'hui où, par exemple, je prends le président du Congo, Félix Tshisekedi, qui a brandi un drapeau israélien, qu'Israël fait exactement ce que l'Afrique du Sud faisait, enfin, les bourgs dans le régime d'apartheid faisaient, un apartheid qui dépasse l'entendement, n'importe qui se dit anticolonialiste ne peut pas accepter ça. Le même Félix Tshisekedi qui réprouve l'agression du Rwanda contre le Congo va maintenant soutenir un pays qui agresse et qui colonise un peu depuis si longtemps. Ça vous montre quelque part l'incohérence politique des dirigeants, d'un certain nombre de dirigeants africains. C'est pour ça qu'il devra y avoir, tôt ou tard, dans les années à venir, peut-être même dans les mois à venir pour certains, une continuité dans les changements qu'on a commencé à opérer en créant un écosystème favorable au basculement à la tête des États et à la reprise en main par des patriotes militaires africains. C'est parce que ça ne peut pas aller autrement. On ne peut pas se diriger autrement. L'Afrique du Sud a une histoire particulière. Depuis l'ANC, Nelson Mandela, Winnie Mandela, Steve Biko et autres, tous ont été opposés à toute forme de colonialisme. Et donc, par conséquent, il y a toujours une position pro-palestinienne très ancrée en Afrique du Sud. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans d'autres États, les gens ne se mêlent pas parce qu'ils sont peureux, à l'image de mon président Patrice Talon, qui est très fort pour persécuter son peuple, mais qui est profondément lâche et peureux lorsqu'il s'agit d'exprimer sa voix contre les intérêts occidentaux. Et on se comprend, puisque ses intérêts sont dépendants de ce que ses maîtres disent en Occident.
On va passer à une actualité qui concerne plus directement le continent africain. On a un groupe alternatif à la CEDEAO qui est en train de se mettre en place. Et il s'agit bien entendu de l'Alliance des États du Sahel, composée, je rappelle, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et récemment, on a le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a annoncé que le groupe évoluera à l'avenir vers une alliance économique. Et évidemment, quand il a évoqué ce tournant que prendrait cette alliance, on ne peut s'empêcher de penser à la création d'une monnaie unique pour les trois pays. Et comment évaluez-vous cette décision ?
Moi, je pense que c'est la seule solution. Et ça revient un petit peu sur ce que nous disons tout à l'heure, et ce que nous disons de manière habituelle. Le changement sur le terrain du système monétaire ne pourra pas se faire de manière individuelle ou d'État par État. Il faudra qu'il y ait toujours des confédérations, des groupes qui puissent concevoir, dans un cadre de critères de convergence réunis, un système monétaire commun. Moi, je pense que l'AES, qui d'ailleurs pour l'instant a trois pays, mais il y aura d'autres pays qui vont rejoindre. On y travaille fortement à différents endroits pour que certains pays basculent dans la bonne direction. L'AES est l'avenir des États d'Afrique de l'Ouest, et c'est une réponse aussi à la déstabilisation du Sahel promue par l'oligarchie américaine et l'oligarchie française. Et il y a des États souverains qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de ne plus jamais laisser quiconque leur dire quoi faire, qui ont décidé de choisir avec qui ils veulent travailler, avec qui ils veulent avancer, avec qui ils ne veulent pas travailler ni avancer. Et je crois que c'est la seule voie possible, ce que dit le président, capitaine et petit frère très brillant Ibrahim Traoré, va dans le sens du processus d'autodétermination de nos populations. C'est ce que dit mon aîné et grand frère, pour lequel j'ai une particulière affection, le général Tchiani aussi, qui est un ami, président du Niger. Il faut que nous allions vers la voie de l'autodétermination de nos populations. C'est la seule solution, et l'AES peut être cette option. D'autres pays vont rejoindre, et ne soyez pas étonnés si dans quelques temps, le Bénin, d'accord, rejoint peut-être le Tchad, même si le Tchad est en Afrique centrale, mais peut-être le Tchad, c'est les problématiques du Sahel, quoi qu'on en dise aussi. Et d'autres pays vont rejoindre, j'en suis convaincu.
Et on a évoqué cette monnaie unique pour les trois pays. En quoi ce serait un véritable coup dur pour la France ?
Écoutez, la France a bâti un système monétaire malgré ses dénégations actuelles de l'oligarchie française, un système monétaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait le franc CFA, au départ franc des colonies françaises, après ils ont changé la signification de l'acronyme, on a tous compris que ça revient à ça, et qui avait pour objectif de permettre de faciliter les exportations de richesses de la France, et richesses émanant du sol africain et des ressources africaines de manière générale, et tout était fait pour qu'il n'y ait pas de contrôle sur ces interactions et sur ce pillage qui était organisé. Et à cela, ils ont monté un système avec, via les comptes d'opération, où toute transaction émanant justement de cette économie dans ces pays, une grande partie de ces transactions devait venir dans les comptes d'opération pour permettre au Trésor français de toujours tenir une certaine puissance. Alors aujourd'hui, ils ont l'oligarchie française, dans un révisionnisme qu'on lui connaît, a tendance à revoir ça à la baisse, à faire croire que ça n'a pas d'importance. Si ça n'avait pas d'importance, le franc CFA n'existerait même plus au moment où on parle. Ils n'y tiendraient pas comme ils y tiennent. Leur histoire de dire qu'ils font ça pour permettre une stabilité, comme je ne sais plus quel plaisantin disait ça... un pseudo-économiste, un jeune qui, son nom m'échappe, mais qui disait que la France ne gagne rien dans le franc. Si c'était le cas, il n'y aura plus de franc CFA. On le sait tous. Et si quelque chose tient depuis 1945, 46 et est toujours présent aujourd'hui, et au moment où Macron, qui s'est senti bousculé, a dit qu'il comprenait les Africains, qu'il était prêt à changer. Déjà, c'est pas lui de changer, c'est aux dirigeants africains, mais comme la plupart sont lâches, on n'est pas dans cette direction-là. Et Macron disait qu'il allait changer le nom sous prétexte que c'était en gros que du maquillage dont on avait besoin. Il était prêt à mettre une monnaie éco plutôt que la monnaie CFA. Nous, on voulait un taux de change flexible. Il a gardé le taux de change fixe parce que ce qui l'intéresse, c'est l'arrimage à l'euro. C'est ce qui permet un certain nombre de facilités pour à la fois le Trésor français et pour aussi l'Union européenne sur un certain point. Mais nous ne sommes pas bêtes et nous allons continuer le combat sur ce terrain.
On va revenir à la CEDEAO qui s'est rassemblée récemment à Abuja. Et on a appris dans la nuit, justement, que le Niger était suspendu de tous les organes de décision de la CEDEAO. Et quelle analyse pouvez-vous nous faire de cette décision ?
On remercie Dieu et le Seigneur que le Niger puisse être libéré de ce conglomérat de malfrats, de mafieux, qui agissent comme les animaux de compagnie de l'oligarchie française. Moi, je suis très content que le Niger ne soit plus dans les instances de la CEDEAO, et j'espère que, au fur et à mesure, le plus possible de pays ne seront plus dans les instances de la CEDEAO. Ils pensent qu'ils sanctionnent alors qu'ils donnent plus que jamais la libération à nos pays. Maintenant, il faut qu'ils sachent que les sanctions qu'ils sont en train de donner sur le terrain économique, c'est quelque chose qui se paiera.
Mais justement, elles ont été prolongées, ces sanctions contre le Niger.
Mais il risque d'avoir un retour de sanctions aussi pour les dirigeants qui ont... Mais il faut qu'ils sachent une chose. La jeunesse africaine, elle est mobile. Elle est mobilisable. Elle est consciente des enjeux. Elle voit qui persécute notre peuple. Elle voit qui collabore avec l'Occident. Elle voit qui sont les traîtres. Il y avait des traîtres à l'époque de l'esclavage, il y a eu des traîtres à l'époque de la colonisation, il y a des traîtres à l'époque de la néocolonisation. Elle voit qui sont ces gens. Des gens comme Ouattara, des gens comme Patrice Talon, des gens comme Macky Sall, des gens comme Mbalo Sissoko, des gens comme le président du Ghana qui s'est fait passer pour un souverainiste alors qu'il n'est rien de ça, Nana Akufo-Addo. Ces gens-là, on les voit. Des gens comme Tinubu au Nigeria, on les voit. Et il faut qu'ils sachent que personne... Je l'ai dit avant à certains dirigeants, ils riaient. Puis après, il y a eu du changement à la tête de l'État. Comme par magie, le basculement s'est opéré. Il faut qu'ils sachent que personne n'est à l'abri d'un changement brutal dans son pays. Et ce que vous donnez comme sanction aux autres, le retour du boomerang va venir, comme on dit chez nous, à chacun son tour chez le coiffeur.
Le message est passé. Justement, maintenant, on est au mois de décembre. Et comme vous le savez, la période, elle est propice au bilan de l'année écoulée. Et il y a eu énormément d'événements qui sont survenus sur le continent africain dans cette année 2023. Et quel bilan pouvez-vous nous faire des événements qui sont survenus sur le continent africain cette année ?
Moi, je pense qu'on est dans une période charnière et que le panafricanisme n'a jamais autant pris en ampleur depuis le début du XXIe siècle et depuis la fin des indépendances, par le biais de la mobilité, la capacité à mobiliser les masses, capacité émanant des mouvements citoyens, notamment notre organisation Urgence panafricaniste, nos partenaires de lutte, que sont ma sœur et proche amie Nathalie Yang, mais mon grand frère très grands amis aussi, Franklin Yamsi, et d'autres hein, qui mènent ce travail aussi dans le cadre panafricain, et qui ont compris qu'il est important que l'on tire tous dans le même sens. Moi, je pense que c'est très important que l'on puisse comprendre la nécessité d'agir dans ce cadre de l'autodétermination collective, et c'est parce qu'on a favorisé des écosystèmes permettant la prise de responsabilité des militaires que certains militaires ont pris leur courage à deux mains et ont bousculé certains dirigeants marionnettes qui étaient à la tête de nos États. Donc, je pense qu'on est dans une direction qui est bonne, historique. Il reste encore des choses à changer. On a parlé tout à l'heure du Bénin, avec nos militants qui sont persécutés. C'est le cas dans bon nombre de pays, comme au Sénégal aussi, où les militants sont persécutés. Mais je pense qu'on est... En fait, j'ai l'impression que la bête qu'est la France-Afrique n'a jamais été aussi proche de son déclin. C'est pour ça qu'elle s'agit autant en réalité.
Oui, justement, c'est une année qui a été marquée par beaucoup de changements. On a eu le Niger. Alors après, on a eu aussi un pays comme le Gabon dans une autre mesure. Est-ce qu'il y a... quelle perspective ces changements géopolitiques qui sont survenus sur le continent africain cette année s'ouvrent pour l'avenir, pour l'année prochaine, les années suivantes?
Moi, je pense qu'il faut différencier, il faut voir au cas par cas, parce que vraiment le cas du Gabon, comme le cas du Tchad, sont évidemment pas dans la direction de l'autodétermination. Bon, les Gabonais... Je suis pas certain que la population gabonaise, à part certains dont nous sommes proches, une minorité, mais dans la grande partie, malheureusement, certains n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez. Ce qu'ils voulaient, c'est ne plus voir Bongo. Donc, ils ont été d'accord pour voir quelqu'un qui était proche de la famille prendre le pouvoir, qui ressemblait moins à un légume. Donc, je peux les comprendre. Mais qui, sur le terrain de la complicité avec le système néocolonial, rien n'a changé. Et c'est pour ça que Macron n'a pas dénoncé le Gabon, n'a pas dénoncé le Tchad. Là, il dénonce les autres pays. Et on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur, et que Dieu ne peut pas changer les conditions d'un peuple tant que le peuple ne peut pas changer lui-même. Donc il y a une réflexion à avoir sur ce terrain-là. Dans certains pays, je pense que le changement n'est pas près d'arriver. Le Gabon, ça finira par arriver, mais ça sera pas eux les premiers, c'est sûr. Le Tchad, c'est en train de pousser. Certainement pas avec succès Masra, mais avec d'autres entités qui veulent un véritable changement, une véritable rupture avec l'oligarchie d'Occident. Et on les encourage et on se réunit avec bon nombre d'entre eux. De l'autre côté, pour ce qui est des pays du Sahel, je pense que là, on est dans une direction qui est des plus importantes et des plus bonnes. Il faut continuer dans cette voie plus que jamais.
Quelles ont été les avancées de la cause panafricaine cette année, et qu'est-ce que vous attendez de l'année prochaine?
Je pense que les avancées ont été énoncées dans ce que j'ai dit. La prise du pouvoir du Niger, c'est le fruit d'un très long travail. On a commencé les mobilisations il y a 8 ans, 9 ans au Niger, en faisant un travail quand même de fond, mobiliser les consciences collectives dans la bataille culturelle telle que l'a conceptualisée Gramsci, faire en sorte que le système néocolonial français, qui avait une hégémonie auparavant sur le terrain culturel, n'ait plus ce monopole-là, et que nos populations commencent à rendre mainstream la nécessité, l'idée, le principe de pouvoir accéder à notre propre souveraineté. Auparavant, c'était tabou, c'est devenu aujourd'hui quelque chose de nécessaire, de normal, qui est discuté par n'importe qui au sein des masses. Et c'est ce qui a favorisé la prise de pouvoir et de responsabilité par les militaires, que ce soit au Niger, que ce soit dans les autres pays aussi. Donc, le panafricanisme n'a jamais été aussi proche du but, à mon sens. Nous continuons sur cette voie. C'est l'idéologie de révolution de notre population. C'est pas nous qui l'avons avancé, nous sommes les fils de nos pères, les fils de nos aïeux, les fils de nos mères, et nous allons continuer sur ce chemin.
Kémi Séba, notre interview arrive à sa fin, et je voudrais vous laisser vous exprimer, regarder la caméra qui est située juste ici, pour adresser un message aux lecteurs de Spoutnik et aux auditeurs de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM.
Que chacun sache que le monde ne changera pas tant que nous ne changerons pas nous-mêmes, que nous sommes les maîtres de notre destin. Que l'Afrique ou que toutes les populations qui sont opposées à l'arrogance de l'oligarchie occidentale, y compris le prolétariat occidental qui y est opposé, que toutes ces populations sachent que, à partir du moment où on croit en nous-mêmes et on croit en notre capacité de puissance, on sera capable de faire de très grandes choses. De l'exclusion d'une élite ou d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Il y a une oligarchie financière qui a pris l'humanité en otage, mais cette oligarchie financière risque de voir la facture par rapport aux exactions qu'elle a commises, arriver très prochainement. Nous y travaillons quotidiennement. La paix sur vous.
C'était Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, en exclusivité pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les sujets africains et internationaux brûlants du moment. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Vladimir Poutine était présent hier face à une foule de journalistes russes et internationaux pour une longue séance de questions-réponses. Il a répondu à 67 questions posées par la presse, mais aussi par des Russes, en direct vidéo. Elles portaient sur des thèmes variés, tels que des problématiques d'ordre social, économique, mais aussi international. Fait curieux, certaines questions étaient insolites. On a notamment pu voir Vladimir Poutine interpellé par son propre sosie, une petite fille qui lui avait demandé si ses parents pouvaient être remplacés par l'intelligence artificielle, ou encore la présentatrice qui l'a questionné sur ce qu'il voulait devenir plus tard lorsqu'il était enfant. Au micro de Spoutnik Afrique, Adama Diabaté, géopolitologue malien, a analysé la ligne directe du président russe. Écoutons-le tout de suite.
Vladimir Poutine a déclaré que la paix arrivera lorsque la Russie atteindra ses objectifs de l'opération spéciale militaire en Ukraine. Et ces propos du président russe ont suscité beaucoup d'intérêt dans les médias du monde entier. Pourquoi, à votre avis, ces propos de M. Poutine ont provoqué tellement d'intérêt ?
Ces mots de M. Poutine devaient susciter effectivement un intérêt considérable auprès de toutes personnes inquiètes d'une recherche de la solution de cette Ukraine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, comme les Ukrainiens disent, si les Ukrainiens étaient indépendants, s'ils avaient l'autonomie de la prise de décision, croyez-moi, s'ils n'avaient été pris à l'otage de l'Occident, d'ailleurs, je dirais, depuis le début de la guerre, ce n'est pas parce que la guerre a avancé et ils se sont retrouvés devant une impasse, comme M. Zaluzny, le ministre de la Défense, a failli à reconnaître, mais qui n'a pas beaucoup plu cette reconnaissance à M. Zelensky. D'ailleurs, ce qui crée aujourd'hui la plus grande tension et le plus grand danger en Ukraine, l'opposition Zaluzny et Zelensky. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est lui le chef d'état-major, c'est lui le ministre de la Défense, c'est lui qui maîtrise bien les choses. En fait, tous, personne est épris de peur aujourd'hui et honnête, qui veut être honnête avec soi-même, comprend que Poutine a le contrôle de la situation. D'ailleurs, je dirais qu'il n'avait jamais perdu le contrôle. S'il faut être sérieux, une victoire hypothétique de l'Ukraine serait catastrophique pour l'humanité, pour une puissance nucléaire comme la Russie, et qui ne va pas se laisser faire, et qui saura très bien que elle-même, l'Ukraine, à elle seule, sans l'aide extérieure, ne pourrait pas tenir contre elle. Donc elle saura que c'est une hypothétique victoire de l'Ukraine, ce ne serait pas une victoire de l'Ukraine, ce serait la victoire de l'Occident. Quel pays possédant autant de potentiel de réplique nucléaire et d'autres sources va laisser faire? Et les Occidentaux, surtout les spécialistes qui sont plus lucides, l'ont toujours dit depuis le début de ce conflit, que de ne pas s'hasarder et au bon moment choisir, pendant que l'Ukraine n'aurait pas fait autant de pertes irrécupérables, qui risquent même l'avenir du pays, parce que c'est de cela il s'agit maintenant. Je me rappelle tout récemment, il y a eu des tiraillements entre la Grande-Bretagne et les États-Unis par rapport au nouveau recrutement en Ukraine, où littéralement les Britanniques disaient mais c'est un risque maintenant de recruter la jeunesse reproductive de l'Ukraine au front, tellement les taux de morts et de pertes sont incroyables, que ça va jouer sur l'avenir même de l'Ukraine. Il n'y aura même personne pour continuer la reproduction en Ukraine. Littéralement, c'est ce qui était dans le New York Times que j'ai lu. Donc, quand Poutine exprime clairement ses buts, l'autre côté saura à quoi s'apprêter, à quoi apprêter et préparer M. Zelensky, à convenir sur ce jusqu'où ils peuvent aller, dans leur constitution avec M. Poutine, sachant déjà les limites de Poutine, c'est-à-dire les extrêmes qu'il ne se discute pas, comme on le dit, qu'il ne se négocie pas. Tout le monde était curieux et aurait aimé, je veux dire tout le monde, à ce que M. Poutine se définisse précisément quels sont les points qui ne peuvent pas être négociés. Et il vient de le dire, ses objectifs sont très bien connus. Ça veut dire que tout plan de négociation qui est l'Occident, parce qu'ici l'Ukraine n'est que un appât, que l'Occident devait proposer à M. Poutine à l'intermédiaire de soi-disant l'Ukraine, ça devait tenir compte de ses objectifs de la Russie. C'est ce que ça veut dire. Pour ne pas laisser l'Ukraine totalement à la destruction, à l'humiliation, déjà, je dirais, c'est inévitable. Le pays est plus que même humilié maintenant. Je dis que le pays est, j'étais en retard de, je dis, 30, 50 ans minimum. Parce que c'est après cette guerre, cette crise, que les gens se rendront compte du niveau de la catastrophe que cette crise a amené à l'Ukraine. Malheureusement, que l'Occident, comme toujours, a traîné l'Ukraine avec un dirigeant aveugle, sans capacité d'anticipation ou bien de prévoyance, ou bien quelqu'un qui s'est laissé emporter par ses intérêts d'autres considérations. Je ne sais pas quelle était la motivation de ce monsieur à accepter à ce que l'Occident sacrifie son pays, parce que tout observateur éveillé, informé, devait à l'avance savoir l'issue de cette guerre, que la Russie et l'Ukraine, ce ne sont pas ils n'ont pas le même potentiel opposable. Oui, l'Ukraine était sûre que l'Occident, comme toujours, ils sont des professionnels en promesse, mais ils n'ont jamais été les meilleurs maîtres en exécution de leurs promesses. Ça, si l'Occident est connu pour quelque chose, c'est pour des promesses non tenues. Malheureusement, nous sommes devant un autre cas de déjà-vu. Mm-hmm. L'Occident a abandonné l'Ukraine parce qu'il n'a plus les moyens de ses ambitions et il n'avait même pas les moyens depuis le début. Il pensait que la propagande allait faire révolter la population russe contre M. Poutine et qu'ils allaient en profiter et que Poutine allait à une paix défavorable. Malheureusement, M. Poutine, comme toujours, a été beaucoup plus prévoyant. Il a été beaucoup plus stratège dans ce combat. Et aujourd'hui, le meilleur que l'Occident puisse faire pour au moins sauver le peu qui reste de l'Ukraine encore, c'est de tenir compte de ses objectifs, de voir jusqu'à présent, jusqu'à quel point on peut prier M. Poutine à ce que il réduise ses objectifs là où c'est possible pour que le plus tôt possible la paix revienne en Ukraine. C'est ce que je pourrais dire de cette situation. Je pense que c'est logique qu'il y ait une telle réaction à une telle clarification de M. Poutine par rapport aux conditions auxquelles il est prêt à aller aux négociations, sans lesquelles il va mener une guerre, ce qu'il a déjà fait, à la guerre d'épuisement avec l'Occident. Bien que, comme derrière ici, je vais profiter pour vous dire que M. Poutine a utilisé une technique professionnelle de son sport aimé, le judo, là où on doit utiliser la force de l'ennemi contre lui-même. Et il a maîtrisé ses sayings en judo à perfection dans les cas Occident-Ukraine avec, et Occident-Russie avec l'Ukraine interposée.
Merci beaucoup. Le président russe a aussi évoqué un autre conflit très très sérieux et très grave, celui de Gaza. Il a comparé en fait le nombre de victimes civiles dans ce conflit de Gaza et dans le conflit en Ukraine. Et il a dit notamment « Partout dans le monde, on voit la différence entre ce qui se passe à Gaza et en Ukraine. Il n'y a rien de tel en Ukraine. Cela veut dire qu'en Ukraine, le nombre de victimes civiles est plusieurs fois inférieur et la Russie n'a jamais bombardé des sites civils. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat du président russe?
Absolument. D'ailleurs, je vous dirais plus encore que ces soi-disant victimes ukrainiennes, pour la grande majorité, c'est des soldats. Les soldats ne tuent pas par plaisir, mais par obligation. Mm-hmm. Mais les cibles civiles, c'est des choses qu'il faut éviter. D'ailleurs, parlant d'Israël, vous m'excusez, mais je ne peux pas me retenir sans dire appeler le chat le chat. C'est le pays le plus criminel sur la planète Terre, si ce n'est son maître, les États-Unis. Aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, croyez-moi, rares sont les épisodes pareils qu'on rencontre dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'humanité a une dette colossale devant soi-même, devant le peuple palestinien et devant ce qu'on appellerait même l'humanisme. On ne devait pas permettre à un pays, quelle que soit l'appellation de ce pays, quelle que soit la puissance de ce pays, de faire ce qui vient de se passer devant nous. Sinon, ça va aboutir, je vais vous dire, dans la tête des citoyens lambda du monde entier, il se passe, je vais vous dire, un décalage psychologique, un changement psychologique. Beaucoup de gens qui avaient connu de telles cruautés seulement dans les films et puis dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils viennent d'assister vivant à cette chose-là qu'ils pensaient incroyable en réalité. Ce qui se passe en Palestine, c'est de la boucherie avec l'accompagnement de ceux qui prétendent être les défenseurs des droits de l'homme. Et je crois qu'après la Palestine, il va falloir faire des réformes sérieuses et profondes du système des Nations Unies pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'on était devant la SDN avant la Deuxième Guerre mondiale, je vous le dis. Parce que tout le peu qui restait du droit international, qu'on pouvait encore jouer à l'hypocrisie, Israël l'a tout balayé en deux mois. Pour dire fin finalement au monde entier. Faites si vous pouvez, des droits internationaux, ce n'est que le par nom. Ceux qui ont la capacité peuvent piétiner et il ne s'ensuira rien. C'est ce que l'humanité, l'homme lambda au monde qui suit ces événements, c'est ainsi qu'il raisonne, c'est ainsi qu'il a raison, pense du droit international et de ses institutions prétendument. Et sur place pour soi-disant défendre les droits internationaux, pour soi-disant préserver la paix. À force de laisser amadouer l'Israël, à le laisser aller dans tout, à accepter tout ce qu'Israël fait, on est arrivé à un point où on risque de mettre à péril tous les systèmes de sécurité et de paix à travers le système des Nations Unies et d'autres organisations internationales est dédiées à cette cause, on risque de les mettre en péril. On risque de les mettre en péril. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré leur inefficacité, ils ont montré leur double poids. Oui, malgré la critique du secrétaire général des Nations Unies, les États-Unis aujourd'hui sont les premiers fauteurs du droit international, les premiers fauteurs de tout le système de maintien de paix et de sécurité dans le monde. Ils sont les premiers relégats aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Donc il faut des réformes profondes. Ces demandes, ces besoins sont criards. Et il faut que l'humanité en fasse, face à ces problèmes. Parce que c'est des problèmes qu'on ne peut plus négliger, c'est des problèmes qu'on ne peut plus relayer après. C'est très criant. Donc, la Palestine, il n'y a rien à comparer à l'Ukraine. Et pourtant, je vais vous dire avant de sortir de votre question que d'un côté, ça a été très bien pour les quelques sceptiques qui étaient là encore, qui pensaient qu'on pouvait, à travers l'hypocrisie, attendre à un certain temps que ces mêmes pays occidentaux allaient se remettre à un certain moment pour des raisons de sécurité, pour des raisons de survie pour eux-mêmes. Parce qu'un monde de jungle ne doit pas les arranger aussi. Bien qu'ils ont toujours joué à la jungle, mais le reste du monde espérait toujours et se forçait à respecter ces règles du jeu. Mais après le cas d'Israël, je crois que tout pays qui aura la capacité va faire fi de ses droits internationaux comme les États-Unis. Depuis l'exemple de la guerre de Yougoslavie en 1999, ils l'ont déjà dit. Le monde ne vit plus sur les droits internationaux, le monde vit sur les ordres, le monde vit sur des principes édités, créés par l'Occident lui-même. Voici le gros malheur du monde.
Tout à fait. Dans cette logique, je voudrais vous poser la question suivante. Le président Poutine a ironisé un petit peu à propos de ce qu'on appelle un ordre mondial basé sur des règles, qui est promu par les Occidentaux. Poutine a dit que de telles règles n'existent pas. Elle change constamment. Le président russe a parlé également de la présidence de la Russie dans le groupe des BRICS, ayant promis que Moscou œuvrerait à mettre en place un ordre mondial juste et équitable. Dans ce contexte, je voudrais vous demander, à votre avis, de quel ordre mondial l'Afrique a-t-elle besoin?
Bien évidemment, la réponse à votre question est très claire. Et pas seulement l'Afrique, mais toute l'humanité. D'ailleurs, l'Occident lambda, je ne parle pas des dirigeants occidentaux, parce qu'il faut faire la différence. Les Occidentaux, ceux qui sont au pouvoir, et la population simple, ils n'ont pas les mêmes visions des choses. Et plein de choses se font au nom de cet Occident lambda. Donc, ils ne sont pas au courant qu'ils ne vont pas dans leur intérêt. Mais on les met hors de l'information. On fait tout pour qu'ils ne soient pas informés, qu'ils ne sachent pas le pourquoi de quoi. C'est ce qui permet à l'Occident d'avoir le moins de problèmes quand ils commettent des exactions partout au monde. Mmh. Donc, quand vous me posez la question, quel ordre mondial l'Afrique aimerait? Non, je dirais quel ordre mondial l'humanité rêve. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit aux Occidentaux, vos collègues occidentaux qui m'interviewent de temps en temps, la première chaîne, je ne vais pas leur faire la publicité ici, vous le savez bien, je leur dis que Poutine est populaire au monde aujourd'hui, la Russie, pas parce qu'ils s'appellent Poutine, pas parce qu'ils sont les Russes, parce qu'ils sont en train de mener une lutte qui conduira à un objectif qui avait toujours été le rêve de l'humanité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui n'avait jamais été atteint et dont qui n'avait jamais eu de lueur d'espoir réel qu'aujourd'hui. Avec l'engagement et l'approche adoptée par le président de la Russie, M. Poutine. C'est-à-dire un ordre mondial équitable, comme il a l'habitude de dire au sommet de Van Dijk, que je suis très attentivement, un ordre mondial où il n'y aura pas d'hégémonie d'un groupe synthétique imposant ses intérêts sous couverture de soi-disant règles ou objectifs qui changent, comme M. Poutine a le dit, les intérêts changent, donc les règles fomentées, imaginées pour atteindre ces objectifs aussi changent. Voici le pourquoi de ces changements. Mais M. Poutine a en vue un ordre mondial où les nations ne vont pas se faire la guerre, où on ne sera plus dans la jungle, parce qu'il faut appeler par les choses par les noms. Le monde d'aujourd'hui, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. D'où cet acharnement de tous les pays aujourd'hui à avoir l'arme nucléaire. Donc, Poutine, dans son approche, a émis le rêve du monde entier. C'était un monde où tout le monde va chercher à se développer sans péché, dans le respect mutuel, au lieu que les cultures aient des approches confrontationnelles les unes des autres, les cultures deviendront complémentaires. Je prête cette même terme de M. Poutine quand il dit il veut un système, quand il dit il veut, et lui il veut, le BRICS veut, et tout ce qui adhère aujourd'hui à ce mouvement de dédollarisation, de désoccidentalisation, toutes les civilisations vont se sentir à l'aise, auront la liberté de s'épanouir, de se développer sans dictat de qui que ce soit. Donc j'appellerais ça la symphonie, l'harmonie, la synergie des civilisations, la synergie des systèmes de développement choisis indépendamment, souverainement, mais en tenant compte des intérêts des uns et des autres. C'est un monde de rêve en réalité. Et avant de sortir de votre question, j'aimerais donner un conseil à l'Occident. Mieux vaut les conseiller aujourd'hui de faire ce qu'on appelle la géo-adaptation. Oui, je ne sais pas comment le terme est répondu, mais c'est la construction que j'ai trouvée qui exprime le plus ce que l'Occident doit faire aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire faire une sorte de repentance, un aveu de carences, un aveu d'incapacité. Comme ça, ils ne vont pas perdre leur temps à essayer de maintenir ce qui n'est plus possible, mais de jouer à l'anticipation, de s'adapter au mouvement. Sinon, le vent est tellement fort que pas seulement l'Occident, même mille fois l'Occident ne pourra pas arrêter ce nouveau vent de basculement géopolitique qui est irréversiblement en faveur du Sud global.
C'était Adama Diabaté, géopolitologue malien pour Spoutnik Afrique. Il a analysé la ligne directe de Vladimir Poutine devant la presse et la population russe. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine émission. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.